Donc bienvenue pour cette lecture biblique. Alors là, c'est vrai que nous avons une très longue épopée aujourd'hui. Et encore, je n'ai pas tout mis parce que ce serait trop long. Il faudrait donc relire cette épopée dans le livre de la Genèse. Ça commence au chapitre 12 jusqu'au chapitre 23. Donc ça fait ça se lit quand même assez vite. Hein. Ça se lit... Le temps d'aller, je ne sais pas quoi, on n'a peut-être pas le temps de faire toute la ligne 1 sans... en lisant l'histoire. Mais alors c'est vrai que, si vous voyez, une histoire d'Abraham, c'est quand même particulier, parce que Abraham, pour nous, c'est le père des croyants, on dit, mais c'est vrai que c'est une figure emblématique, aussi bien pour les juifs, bien entendu, les musulmans et les chrétiens. Alors pour les chrétiens... on se dit finalement fils d'Abraham par la foi, pas spécialement par le sang, et ça c'est un basculement qu'on voit dans l'évangile, en particulier avec Jean-Baptiste, puis avec Jésus et puis Paul. Il y a l'idée qu'on descend d'Abraham par la foi et puis par la promesse. On va le voir là, il y a vraiment une ouverture à l'universalité dans l'histoire d'Abraham qui est intéressante et qu'on retrouve bien finalement dans la foi chrétienne. C'est-à-dire qu'Abraham, on a au début cette bénédiction qui le met en route pour être bénédiction pour un très grand nombre de peuples. Ça vraiment pour nous, c'est vraiment les idées principales finalement qu'on retrouve dans l'évangile dans un certain sens. L'idée de cheminement, de mise en route, de mise en cheminement, on dit voilà le Christ est chemin, c'est vraiment un peu l'idée, quoi, c'est ça. L'idée de conversion, de mise en route... vers on ne sait où, mais on se met en route en confiance. Ça, c'est vraiment une des idées de base quand même de la prédication de Jean-Baptiste, de la conversion, du cheminement. Et puis l'idée d'être béni avant même d'avoir rien fait. Et puis d'avoir la promesse d'être bénédiction pour toutes sortes de gens bizarres et de peuples qu'on n'aurait même pas imaginé. Il y a là aussi quelque chose de très fondamental dans l'évangile. Donc vous voyez, je ne dis pas, je ne sais pas, on pourrait le dire, est-ce que... Abraham est une prophétie de Jésus-Christ, ou est-ce que Jésus-Christ, plutôt, il accomplit la promesse, la vision, la pointe théologique, spirituelle, existentielle qui est décrite dans l'histoire d'Abraham. Alors ensuite, cet Abraham, cet Abraham, si on suivait l'histoire, grosso modo, ce serait envers moins 2100 ou moins 2200, quelque chose comme ça, avant Jésus-Christ. C'est-à-dire la fin de la pierre taillée, le début du bronze ancien, dans ces pays que l'on connaît un petit peu quand même par l'archéologie. Cela dit, je ne mettrai pas ma main à couper sur le fait qu'il y a eu un monsieur Abraham, une madame Sarah, une madame Agar, etc., parce qu'il est quand même très vraisemblable que c'est une figure mythologique, c'est-à-dire c'est une figure théologique, spirituelle, existentielle. C'est aussi se donner un ancêtre commun pour fédérer, dans le début de l'histoire du peuple hébreu, fédérer des tribus plus ou moins nomades, plus ou moins cananéennes, plus ou moins ceci, plus ou moins égyptiennes, plus ou moins cela, qui se sont fédérés autour d'une certaine type d'adoration, peut-être autour aussi comme le décalogue qui donne une foi, et puis aussi une constitution civile en disant il vaut quand même plutôt mieux ne pas trop tuer son prochain dans une société civilisée, ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut essayer d'éviter. Donc vous voyez ce genre de choses. Ensuite, pour fabriquer un peuple, on peut s'inventer un ancêtre commun, c'est peut-être ça. Bon, ensuite, pour nous, peu importe, si vous voulez, de toute façon, il y a peu de chances que nous revivions encore l'époque de moins 2100 en Mésopotamie et en terre de Canaan pour rencontrer M. Abraham. Par conséquent, son histoire littérale, pas littérale, a finalement que peu d'importance. En tout cas, au point de vue rédaction, c'est des textes qui ont été écrits quelque chose comme de l'ordre de 500 ans avant Jésus-Christ. La langue n'est pas la langue la plus ancienne qu'on trouve dans la Bible. Ce n'est pas dans les textes les plus anciens, on le sait. Bon, c'est comme si on demandait à des historiens, ils reconnaissent tout de suite en fonction du style littéraire, de le vocabulaire employé, quelle est l'époque. Hein. Si on voit une page de français, on sait à quelle époque ça a été écrit, grosso modo. Hein. Donc là, c'est pareil, on sait un peu quand ça a été écrit. Alors, est-ce que vous avez... Il y en a qui ont déjà lu un peu cette histoire-là. Il y a des choses que vous avez, des remarques sur cette épopée, oui.
Merci pour votre approche. Ah. Je fais le lien justement avec les textes, les recherches qui ont été faites à l'email. Dans le livre La Bible dévoilée,
Oui.
Si c'est ça, vous le citez largement dans votre forme.
Oui.
Quand vous parlez du 5e siècle, vous parlez surtout du 7e siècle.
Oui, alors ça, oui, ça dépend un peu des... Ça dépend des pages aussi, hein. Ça dépend des pages. Je ne sais pas exactement pour la Genèse, il faudrait demander à un spécialiste comme Thomas Romer. Mais ensuite, si vous voulez, les hypothèses des exégètes, des savants, ces hypothèses durent ce que durent les roses, vous savez. Hein. Ça éclot un matin et puis le soir, les pétales tombent. Pour une nouvelle rose le lendemain. Ouais. Donc ça va, tout va bien.
C'est deux destins complètement différents.
Alors il y a plusieurs destins. Bon, alors effectivement, le personnage principal de l'histoire, c'est Abraham, le héros de l'histoire. Mais bien sûr, il y a cette femme Sarah ou Sarai qui est importante, hein, bien sûr, dans ce texte. Si on reprend alors le Genèse 12, c'est cet envoi, c'est le texte le plus connu, hein, c'est le va-t'en de ton pays, c'est, bon, on le connaît même en hébreu, l'era, c'est-à-dire va-t'en pour toi. On ne sait pas très bien ce que veut dire ce « va pour toi hein, »,« va toi », et puis cette idée de mise en cheminement, de quitter son pays. Donc c'est l'idée de... Oui, c'est sûr, pour se progresser, pour se réformer, oui.
De renouvellement.
De renouvellement, de cheminement, de croissance. Il faut en même temps prendre en compte notre histoire, notre culture, de là d'où on vient, et puis avoir ce travail qui nous amène... pour être nous-mêmes dans un certain sens. Alors là, pour les lectures psychanalytiques, ce genre de texte est vraiment passionnant et c'est fait par des Marie Balmary, par des tas d'auteurs qui travaillent sur ce genre de relecture. Hein.
Et même dans l'époque moderne, quand un jeune veut, je veux dire, se libérer des contraintes de la famille, il va ailleurs.
Il va ailleurs et puis il veut courber le cordon ombilical, en fait. C'est assez normal. C'est...
Quitte à le reprendre quand il a une certaine maturité.
Quitte à avoir une relation plus saine avec son passé, son histoire, ses parents. Donc il part avec Sarah sous le bras, j'allais dire, parce qu'on voit au chapitre 12 que pour lui, Sarah est un peu comme un objet. Cette histoire est absolument épouvantable. Sarah, il s'appelait à l'époque, était très belle, et donc il se dit, mince, on va vouloir me tuer pour me prendre ma femme en allant en Égypte. Il refait la même chose un peu plus loin, il refait la même histoire plus loin. Bon. Il dit, je vais la présenter, tu vas te présenter comme ma sœur, comme ça les gens pourront coucher avec toi joyeusement, ça m'apportera un bénéfice important parce qu'on voudra me payer ma sœur, et puis tout sera comme ça, parfait, il n'y a pas de problème. Moi, j'appelle ça du proxénétisme. Oui. Voilà, il transforme sa femme bien-aimée en pute. Voilà.
C'était vraiment sa demi-sœur, de toute manière.
Ah, peut-être.
Il paraît qu'il avait épousé sa demi-sœur.
C'est bien possible, oui.
Qui c'est qui nous a dit ça? C'est votre
conf. Non, mais c'est bien possible, tout à fait. Oui, oui. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est absolument épouvantable. À mon avis, c'est surtout pour dire, effectivement, l'attitude, la conception qu'il a de cette femme... où c'est pour elle une possession et une source de rendement, de profit. Et on va voir que, du coup, son couple n'a aucune fécondité. Et je crois que c'est ça quelque chose, c'est l'avantage de cette histoire, c'est pas pour nous dire que, bon, Abraham étant le héros de l'histoire, forcément tout ce qu'il fait est formidable et exemplaire. Au contraire, on nous dit... Cette façon d'être et de faire, il a la bénédiction de Dieu, il est envoyé en route, c'est quelqu'un de bien, parce qu'il a une dimension de foi, il est à l'écoute de Dieu, il se laisse mettre en chemin par ça, mais parlons-en du chemin. Il y a du chemin à faire. Et ben, cet Abraham n'est pas parfait. Cet Abraham est même au début vraiment monstrueux dans un sens. Donc, nous tous, même si nous étions vraiment quelqu'un de dégueulasse, comme dans cet épisode du chapitre 12, là, tout n'est pas perdu. Nous pouvons aussi faire un cheminement positif et favorable. Alors, Madame Klein disait, il y a le changement de nom, là, d'Abraham qui devient Abraham et Sarai qui devient Sarah. On va le voir un peu plus loin dans les changements de nom. Sarai, ça veut dire ma princesse. Donc, en fait, c'est une possession d'Abraham. C'est sa princesse à lui, voilà. Et elle n'existe que pour lui. Alors, c'est pas génial, ça n'a aucune fécondité, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas donner quelque chose de vivant et de bon. Et ça va marcher, finalement, malgré la promesse de Dieu qu'ils auront une descendance importante, ça, c'est bloqué, cette bénédiction de Dieu est bloquée par cette attitude insupportable d'Abraham vis-à-vis de sa femme, conception du couple, du rapport à l'autre. Et il faudra ce changement de nom, finalement, pour que ça évolue. Et Sarai, au lieu de s'appeler Sarai, ma princesse à moi, finalement, ma chose, mon objet, ma princesse pour moi, ça devient Sarah tout court, c'est-à-dire princesse en elle-même. Et donc, du coup, c'est elle qui devient un être reconnu comme un être personnel par Abraham. Ce qui est quand même autre chose, vous voyez, il y a une évolution, à mon avis, là, qui est importante, qui nous est proposée.
C'est vers quel chapitre ?
Alors, c'est dans le Genèse 17, c'est perfectionnement, vous voyez, c'est en bas de la page, là, Genèse 17, verset 15, Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai. » Et donc, vous voyez, c'est plus Abraham qui reçoit la bénédiction, Abraham qui va être grand, qui va être père d'une multitude de nations, et donc il va se servir de Sarai comme d'un utérus en se disant, avec la bénédiction de Dieu, puis avec ce que je suis, forcément ça va marcher du tonnerre. En fait, ça n'est pas forcément. Voilà. Alors Abraham, il s'appelait Abraham, c'est-à-dire père élevé, donc il ne se prend pas pour la moitié de la queue d'une cerise, vous voyez. Père élevé, c'est moi, j'arrive, et puis il va devenir... Quoi ?
Père supérieur.
Le père supérieur. Voilà. Et il devient Abraham, c'est-à-dire le père d'une multitude, de peuples et de nations. Donc sa grandeur, elle est projetée vers plutôt la bénédiction qu'il va donner, finalement, va être bénédiction pour d'autres, vers l'avenir, vers le don, vers le service, vers le... Et donc, alors du coup, je dirais, ça débouche les canaux de la bénédiction en lui-même, et puis de sa relation à l'autre aussi. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser sa femme comme, ou les autres, comme des objets, des outils, ça va être, il va les reconnaître comme des personnes qui sont bénies individuellement.
Et puis, la relation d'Abraham avec le H, donc père d'une multitude, ça intervient vers le chapitre 17 au verset
15. Verset un peu plus haut, oui. C'est verset 5. Hein. Voilà. Car je te rends père d'une multitude de nations. Mais alors, entre-temps, si vous voulez, donc on en était au chapitre 12, ou à la fin du chapitre 12, où Abraham prend Sarah comme un objet, finalement, pour gagner de la richesse en Égypte. L'Égypte, c'est un peu le symbole de la richesse et de la puissance humaine, voyez, dans la Bible. Donc c'est pas mauvais d'aller en Égypte quand il y a une famine, c'est normal. Donc c'est on s'appuie aussi sur la puissance humaine et la richesse humaine, mais il faut pas y rester, il faut pas y placer son espérance. Alors bon, ça marche toujours pas, il n'y a toujours pas d'enfants, ils attendent, et puis les années passent. Au chapitre 13, il y a le renouvellement de la promesse à Abraham. Je vous ai parmi le texte, c'est la même chose que toutes les autres promesses. Promesse d'une terre, promesse d'une descendance. Moi, comment comprendre ça? Je dirais descendance, c'est d'avoir une vie qui dépasse notre finitude, notre durée de notre existence. Et donc, pour nous, c'est la promesse de vie éternelle, ou de vie de qualité. Une vie de qualité, vous voyez, qui a une profondeur d'être, même si on n'a pas forcément des enfants physiquement, mais une vie qui fasse avancer le schmilblick, vous voyez. Et puis, d'une terre, ce n'est pas forcément une terre géographique qui nous est donnée, c'est plutôt l'idée d'une place en ce monde. C'est une dignité, c'est le droit d'exister, d'être heureux. Une certaine plénitude, une paix. La paix, c'est l'image de cette plénitude, voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui est promis, et donc c'est encore répété à Abraham pour essayer de déboucher en lui les canaux de cette bénédiction. Mais ça ne marche toujours pas. Alors chapitre 15, Abraham perd espoir. Mais on voit ce qui est touchant, si vous voulez, c'est qu'il n'y a même pas marqué qu'Abraham a perdu espoir. On voit au début, c'est Dieu qui s'approche et qui dit à Abraham, ne crains pas, car je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande, mais il ne s'est pas encore plaint finalement. Mais Abraham répond par sa dépression finalement. Il dit, ben oui, en fait, ça ne va pas du tout le moral. Ça ne va pas parce que j'avais une promesse de bénédiction, qu'on aurait plein d'enfants, etc. Mais ça ne marche pas. Et on peut connaître effectivement ce désespoir en ce monde en se disant, mais tout foire dans ma vie, ou bien ça ne va pas comme je l'entendrais, mais ça ne marche pas. Et c'est vrai que des fois, la vie n'est pas juste. Bon, ça c'est sûr. Hein. Quoi ?
C'est sûr.
La vie n'est pas juste. Il y a des gens qui n'ont que des catastrophes, et puis d'autres, en fait, ça va assez bien. Quoi ? Qui passent à travers les gouttes. Ce n'est pas forcément de notre faute.
Oui, mais il y en a ceux qui une fois un petit peu tiède, pensent que c'est la faute de Dieu, ça. Ils se révoltent souvent.
Alors, on a le droit de se révolter. D'ailleurs, on le voit là. On a le droit de se révolter. Ça, on a le droit de gueuler contre Dieu, c'est tout à fait bon. Si on lui fait la gueule, c'est plus gênant. Parce que si vous voulez... Bonjour, monsieur. Je vais vous prendre une petite feuille, si vous voulez. Une grande feuille, même. Si on fait la gueule à Dieu, il n'y a pas de... Mais c'est comme en famille ou avec des amis. Si on se fait la gueule, il n'y a aucune chance que ça s'arrange. Si on gueule, au moins, bon... Allez, on a dit les choses.
On garde le contact.
On garde le contact. Ensuite, il ne faut pas se fâcher. Il ne faut pas... Mais enfin, on a le droit de gueuler. Voilà. Sans se fâcher. Voilà, au contraire, à la limite, quand on gueule, on adresse la parole, ça permet de s'expliquer, et c'est pas mal. Donc on a le droit de gueuler, mais il y a des fois aussi, si vous voulez, où la chance passe sans arrêt à notre porte, et où on ne la saisit pas. Il y a des fois où on a tout pour réussir, et puis en fait, c'est nous qui nous débrouillons mal avec ça, et puis on a des qualités, on ne les utilise pas, on a des défauts, on se plaint de les avoir, on a des choses, on ne fait même pas content de ce qu'on a, mais on se plaint de ce qu'on n'a pas. Mais des fois où on prend la vie de travers, quoi, si vous voulez. Là, c'est un peu le cas. Il prend la vie de travers, et Dieu répète, il dit, mais si, ça va le faire. Et tu auras une descendance comme les étoiles du ciel. Et donc finalement, la bénédiction de Dieu, elle est... aussi nombreuses que ça, et c'est ça qui nous est promis. Alors ils se disent, si vous voulez, avec Sarah, ils se disent, ça ne marche pas, peut-être on attend tout de Dieu comme ça, les bras croisés, aide-toi, et le ciel t'aidera, c'est ce qu'on dit. Ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire ? Peut-être c'est qu'on n'y met pas assez d'une autre, quoi, on va se bouger. Alors ils vont se débrouiller avec la technique du bord, quoi, si vous voulez.
La servante.
Donc les modèles des fois se reproduisent, si vous voulez. Sarah, elle est traitée comme un utérus à la disposition de son mari. Pan, elle fait pareil avec sa servante. Elle dit, j'ai une servante, Pan, tu prends ça, tu couches avec, ça fera un gosse. Bon, c'est vrai.
Et il sera
moi. Et ça sera mon gosse, voilà, c'est ça. Ben oui, c'est normal, puisque là, sa servante, c'est son objet.
C'est son objet. C'est pas sympa tout de même cette histoire.
C'est pas sympa, mais ça chemine, si vous voulez. Ça va cheminer quand même.
La servante ainsi que Sarah. Elle est très dure avec la servante.
Bah donc, effectivement, parce qu'on est dans ce type. On est dans ce type de rapport, si vous voulez. C'est pas pour dire que c'est bon, c'est justement pour dire que c'est pas normal et que ça ne va pas. Que ça ne va pas. Et puis, si vous voulez, l'idée de se dire voilà, il y a marqué, vous voyez. Sarah, alors ce qui ne va pas, c'est que l'Éternel m'a rendu stérile, au verset 2, chapitre 16, verset 2. Ce n'est pas l'Éternel qui l'a rendu stérile, je suis désolé. C'est Dieu, c'est le Dieu de la vie, c'est jamais le Dieu qui rend malade ou qui punit ou qui machin, sûrement pas.
C'est leur comportement.
C'est leur comportement, puis des fois il y a des choses qui ne vont pas dans ce monde, si vous voulez. Il reste encore du chaos dans ce monde, donc il y a des choses qui ne vont pas, il y a des catastrophes, il y a des gens méchants, donc il y a des choses qui ne vont pas. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas, bien sûr pas l'Éternel qui est source de cette stérilité. En l'occurrence, c'est peut-être des problèmes de fécondité, parce qu'ils ont quand même déjà un bel âge, donc ça peut coincer. Deuxièmement, à mon avis, c'est un vrai problème existentiel, un problème moral, un problème éthique, un problème spirituel, qui fait que la bénédiction ne peut pas circuler dans leur être. Mais quand même, la technique humaine, vous voyez, donc, il prend la femme Agar, c'est l'égyptienne, donc là encore, c'est, ça évoque, si vous voulez, l'idée d'industrie humaine, hein, c'est que les Égyptiens étaient connus pour ça, essayer de construire leur vie éternelle avec des pyramides, des embaumements, une technique. Ils étaient forts en géométrie pour faire le cadastre des champs après la crue du Nil. Ils étaient donc, voilà, c'est l'industrie humaine. Donc par l'industrie humaine, eh ben, ils fabriquent un enfant. Et bon, si vous voulez, c'est quand même pas tout à fait ça. C'est-à-dire que la promesse, c'était au-dessus de ça. Mais quand même, cette industrie humaine, c'est pas mauvais. Il y a un vrai enfant qui naît, il y a vraiment de la vie. Et Dieu dit, oui, cette vie-là sera bénie, si vous voulez. Donc, c'est pas pour dénigrer, si vous voulez, l'industrie humaine, c'est bien aussi. Mais la vie qui est promise, c'est aussi plus que ça. Voilà. C'est un peu ça, l'histoire du truc. Alors ensuite, comme vous dites, il y a la jalousie, parce qu'on est dans un mauvais rapport les uns avec les autres. Et donc la jalousie, bien sûr, Agar, elle était traitée en objet, mais à ce moment-là, elle relève le nez, si vous voulez, en disant, mais en fait, la bénédiction, elle passe par moi, et donc elle dit, voilà, donc hein, je vaux quelque chose. Donc je suis quelqu'un, en fait, je ne suis pas qu'un objet. Donc elle relève le nez. C'est une erreur, si vous voulez, de la part d'Agar, bien sûr. Mais on peut comprendre, et c'est un peu la conséquence néfaste, malheureuse, d'une personne méprisée. Ça n'excuse pas, ça permet peut-être de comprendre, et de comprendre que quand on fait le mal, quand on méprise, c'est pas que Dieu soit fâché en disant « je vais lui mettre un mauvais point à ce coquin », c'est que ça engendre, si vous voulez, des troubles dans les relations entre nous et les autres, entre les autres et les autres des autres, si vous voulez, c'est ça. La méchanceté, ça fait du mal, et ça fait boule de neige, ça fait boule de... Je sais pas, boule de neige, c'est un mauvais exemple, parce que c'est boule de... boule de saleté. Je sais pas. Voilà, voilà. Donc, alors, la jalousie, là... ça va être pire encore après, au chapitre 21, ça va être pire. Pour l'instant, elle est qu'enceinte, Agar. Donc Sarah, bon, on prend ça un peu mal, mais... bon, alors quand même, elle a un enfant, hein, et il l'appelle donc Ismaël, c'est-à-dire Dieu entend, Dieu écoute, Dieu a entendu. Et c'est vrai que Dieu écoute, c'est... le propre même de ce Dieu-là. Hein. On l'a déjà vu au chapitre 15, on le voit ensuite. Dieu écoute, il regarde, il accompagne. Alors, chapitre 17, il y a un perfectionnement d'Abraham et Sarah, c'est-à-dire il se rend compte qu'il faut un juste rapport avec Dieu. C'est-à-dire qu'au début, il se disait, « Bon, je suis béni et donc je vais attendre tout de Dieu ». Ça ne marche pas. Ensuite, il se dit, bon, puisque quand on attend tout de Dieu, ce n'est pas génial, ben, je vais me débrouiller, on va se débrouiller par les moyens du bord, les moyens humains. Ça marche un peu, mais ce n'est pas ça quand même, tout à fait. Ce n'est pas top. Alors, il comprend là qu'il faut un juste rapport, et que ce juste rapport, c'est ce qui est marqué au verset 1, « Marche devant ma face et sois parfait ». Donc, ce qui est parfait, vous voyez, c'est marcher devant la face de Dieu, c'est-à-dire dans un juste rapport avec Dieu, où il fait ce qu'il faut et où il laisse la place à Dieu, et où c'est un partenariat, c'est une équipe finalement. Un juste partenariat. C'est ça qu'il va essayer d'apprendre avec finalement l'idée de la circoncision. Alors bon, historiquement, il y a eu sans doute cette histoire de circoncision. Ça a été abandonné dans le christianisme assez rapidement, hein, vraiment dans la première génération, parce que techniquement, la circoncision est réservée aux mâles, aux garçons, pour des raisons techniques un peu primaires. Et donc, dans la foi chrétienne, les premières générations de chrétiens ont voulu remplacer la circoncision par une imposition des mains ou par le baptême. Par le baptême même des enfants, finalement, très rapidement, hein, au bout de quelques années, donc a remplacé un peu le baptême de Jean-Baptiste, qui était un baptême de conversion. Il est apparu un baptême d'enfants, un baptême à la place de la circoncision, des garçons comme des filles, pour dire cette alliance, finalement, mais ça revient à ça, finalement, hein, c'est l'alliance donnée, l'alliance de grâce première, qui est comme une pluie sur le désert et qui fait fleurir le désert, ou comme cette bénédiction qui met en route Abraham pour qu'il soit bénédiction.
Mais l'un est spirituel et l'autre est matériel.
Le
baptême est beaucoup plus spirituel, c'est avec de l'eau.
Oui, alors c'est... Oui. La circoncision...
C'est
ah oui, alors ça dépend le rapport qu'on a avec ces gestes, si vous voulez, parce qu'on peut avoir un geste de compréhension de la circoncision qui n'est pas que matériel. Il y a la circoncision de la chair, mais les rabbins disent qu'il y a aussi la circoncision du regard, de l'écoute, du cœur. Hein, c'est-à-dire de l'écoute pour vraiment laisser une place justement à la façon dont Dieu voit les choses. Du regard pour la circoncision du cœur pour aimer, c'est pas qu'une circoncision de la chair. Et dans un certain sens, ils disent que la femme est née circoncise, puisqu'elle n'a pas de pénis, donc elle est née circoncise de naissance. Et donc il lui reste à accomplir dans son être la circoncision de la pensée, du regard, de l'écoute et du cœur, si vous voulez. Alors que l'homme, bon, c'est un peu, hein, il descend du singe, il est moins évolué que la femme, et il faut rectifier la situation en le perfectionnant artificiellement, voilà. On peut le voir les choses comme ça aussi. Mais enfin, en tout cas, c'est vrai que dans la foi chrétienne, ils ont rapidement abandonné ça pour que le geste, même si on dit ça, la femme est déjà née circoncise. Quand même, il n'y a pas ce geste qui est un geste fort d'alliance. Et puis la foi chrétienne a dit, en fait, on n'a rien à se retrancher pour entrer dans l'alliance de Dieu. On a plutôt à recevoir du plus. Et donc c'est ça aussi qui gênait dans cette idée de circoncision. Toujours est-il que là, on peut le comprendre, spécialement ce geste de couper un petit morceau de peau sur le sexe, qu'Abraham percute sur le fait qu'il n'est pas que... seule source de virilité et de fécondité, d'ensemencement du monde, mais qu'il faut qu'il compte sur Dieu aussi pour que ça soit un partenariat. Et donc c'est ça la vraie circoncision, si vous voulez, c'est Dieu qui rend fécond, et c'est un travail avec Dieu qui a une fécondité, c'est pas notre propre industrie humaine en elle-même. Il y a une certaine fécondité, mais enfin il n'y a rien de transcendant et d'extraordinaire. Bon, bien sûr, on peut faire des enfants qui sont nos enfants, mais pour qu'il y ait cette abondance extraordinaire de bénédiction, voilà, c'est nos projets humains avec notre part d'industrie de l'un, mais avec le quelque chose de plus qui vient de Dieu et que lui seul peut apporter.
Nos œuvres sont nos enfants aussi.
Alors nos œuvres sont aussi nos enfants.
Ce que l'on fait, ça peut...
Mais si ce n'est que de la reproduction, ce n'est qu'un petit animal.
Voilà.
Alors que s'il y a de aussi
le chef-d'œuvre.
Pour que ce soit le chef-d'œuvre, il faut qu'il y ait de l'amour. Par exemple, on sait très bien que c'est le roi fou de Neuschwanstein, les historiens me diront ça, mais qui s'était dit je vais faire un test. Il avait un esprit scientifique, ce bonhomme. On va mettre des enfants avec des nounous qui dans une pièce qui vont les élever, mais sans leur parler, pour voir ce que ça donne. Voir si de nature un humain est bon. Non, c'est vrai ou pas cette histoire? C'est peut-être une légende. Et donc il a mis des enfants dans une pièce avec des nounous qui avaient ordre de ne pas parler aux enfants. Ben, ça n'a pas donné grand-chose de génial parce que ces enfants n'étaient pas tellement en forme. Et oui.
Non, parce qu'ils essaient d'imiter les mouvements des lèvres. Et...
Ben oui, et puis on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être câliné, de relations, de, hein, etc. Et donc c'est une part indispensable. On pourrait dire la même chose pour la bénédiction de Dieu, c'est ce supplément d'être. Mais déjà, quand on aime son enfant, il y a déjà quelque chose de cette bénédiction qui passe. Si vous voulez, c'est pas pour dire que les enfants qui seraient nés dans un couple complètement athée de la bouche seraient des bêtes. Bien sûr que non. Parce que l'amour est déjà, comme dit Jean dans sa première lettre, quiconque aime est déjà né de Dieu et connaît Dieu. Donc tout couple, tout athée qu'il soit avec sa tête, aimant véritablement son enfant comme une personne et non pas simplement comme leur chose, déjà, elles sont dans une démarche de foi sans le savoir. En tout cas, nous, on leur reconnaît volontiers que dans l'amour vrai, la grâce qu'ils ont pour leurs enfants, c'est quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appelle le divin, nous, dans notre théologie, dans notre foi. Alors chapitre 18, là on va voir un peu comment ça s'applique finalement, comment peut se vivre cet partenariat avec Dieu et cette circoncision du cœur. C'est-à-dire qu'il y a... Donc il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Alors on a de la chance, il fait un peu moins chaud, mais on a vu ces jours-ci ce que c'est que la chaleur du jour. Et dans ces pays, la chaleur, c'est pas pour rigoler, si vous voulez. Hein. Non, enfin, je suppose, je suis jamais allé en Israël. Mais ça doit cogner, quand même.
Du reste, dans le Nouveau Testament, dans toute la Bible, l'eau joue un rôle énorme. Et quand si on a vécu un peu dans les pays méditerranéens, eh bien, une tasse d'eau, on ne gaspille pas l'eau comme on fait dans le Nord. C'est presque sacré. Et alors, comme ces gens-là, certains avaient des sandales, les soldats romains avaient en effet des sandales, mais beaucoup marchaient nu-pieds, d'où l'importance de se laver les pieds en arrivant après une longue marche. Ce sont des détails qui pour nous ne sont pas très importants, mais quand on connaît un peu les pays méditerranéens et qu'on arrive plein de poussière à boire un verre d'eau et pouvoir se rafraîchir les pieds d'une eau qui vient d'une grotte, parce que ce n'est pas l'eau du robinet, c'est extraordinaire. C'est quelque... Nous, au XXe siècle, enfin, on comprend, ce sont des choses qu'on imagine de moins en moins.
Oui, et puis pour nous, le soleil, c'est un peu une bénédiction, on aime bien, je veux dire, aller au soleil, en vacances, bon... Eux, le soleil, c'est quelque chose qui est dangereux, c'est quelque chose qui brûle, qui tue, finalement. Donc là, il est à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. C'est pour faire un peu, donner un peu le paysage, mais c'est aussi, on peut s'imaginer la dureté de la vie, finalement. Mais en même temps, à l'entrée de la tente, il était, ça veut dire qu'il est comme prêt à partir, si vous voulez. Il y a l'idée d'être d'une certaine vigilance, d'une certaine aussi disponibilité, il est disponible pour se mettre en route finalement, et ça c'est un élément qui est positif. Et là déjà il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une circoncision, si vous voulez, c'est de ne pas simplement se dire je campe là. Il y a l'idée de d'être prêt à se mettre en route, et puis l'idée de lever les yeux et de regarder, ça c'est pas mal aussi, si vous voulez. Il lève les yeux vers le haut, il y a quelque chose de positif, il regarde plutôt que d'avoir les yeux tournés vers le scellement, son nombril ou l'intérieur. Il y a là aussi quelque chose qui nous est proposé déjà comme piste existentielle, de circoncision du regard, j'allais dire. Circoncision du regard, d'avoir comme ça l'idée de lever les yeux et de regarder, et puis de reconnaître et d'accueillir ces hommes ou ces anges ou Dieu lui-même qui arrivent. Moi j'aime bien, c'est où dans les lettres de Paul, il dit N'oubliez pas l'hospitalité, parce qu'il y en a plus d'un comme ça qui ont accueilli un ange. Mais c'est un peu vrai quand on va, quand on rencontre les autres, si on les regarde, non pas en les regardant de haut, mais en levant les yeux, c'est-à-dire en cherchant ce en quoi ils sont d'une certaine manière supérieurs à nous, ben, on a bien des chances d'accueillir des anges, c'est-à-dire que du coup, on va s'ouvrir à ce qu'il y a de bon dans la personne qui est en face, pas simplement à ce qui est mauvais. D'abord, ça donne une vie plus joyeuse, parce qu'on voit des plus belles choses que si on va toujours chercher les défauts des autres, on a toujours l'œil qui est plongé dans des saletés. Mais en plus, on est au bénéfice de ce qu'il y a de bon, de vivifiant dans l'autre, et c'est comme ça qu'on accueille des anges, en fait. C'est-à-dire, du coup, les autres sont anges parce que on a reconnu en eux ce qui vient de Dieu, et donc ils nous l'ont apporté, parfois sans le savoir. Hein. Mais c'est un peu le regard qui fait l'ange, dans un sens. C'est un peu le regard qui fait l'ange. Puisque, à mon avis, Dieu a donné son esprit à chaque être humain. Alors cet esprit, il se déploie comme il peut à l'intérieur de chacun. Et c'est comme toutes ces paraboles agricoles que donne Jésus. C'est des grains semés qui poussent lentement et comme ils peuvent. Mais il y a du divin dans chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Et donc, par un regard positif, on peut reconnaître ce qui est de l'ordre du divin dans l'autre. Et du coup, l'autre devient ange, puisqu'il nous a apporté quelque chose qui vient de Dieu. Voilà. Et donc, il va apprendre, plutôt que de dire, mais ça, je veux dire, surtout nous, Français, bon, je ne veux pas critiquer, hein, ce n'est pas mon genre, mais on est des sacrés râleurs, hein, on dit, mais j'y ai droit, voilà. Mais là, il ne commence pas par dire j'y ai droit, il commence à dire, ben, je vais déjà me mettre au service, quoi. Ben, ça rend la vie agréable quand même, si vous voulez. Si on est dans le rapport à l'autre, au lieu de dire, ben, qu'est-ce que tu dois me faire pour... Ben, c'est quel président des États-Unis qui a dit, avant de vous demander sans arrêt ce que l'État peut faire pour vous, demandez-vous déjà ce que vous pouvez faire pour l'État. C'est Roosevelt ou je ne sais pas qui, non? Non, ça peut être qui?
Si,
ça doit être... C'est quelqu'un comme ça.
C'était repris par Kennedy.
Ou c'est Kennedy, peut-être. Mais c'est quelque chose qui est quand même là, très abrahamique, si vous voulez. Et cette circoncision, c'est déjà ça. Au lieu de dire à Dieu, ben alors, et ta bénédiction, ça vient, oui. Et il se dit, bon, ben, je vais...
La mériter.
Ben, ou...
Oh, la mériter.
Dans cette disponibilité, si vous voulez, de...
Aller de l'avant.
Voilà, c'est ça, je crois, hein, si vous voulez, c'est...
Il ne faut pas s'asseoir par terre et attendre que ça vienne.
Mais alors, je ne sais pas à quoi c'est du... C'est mérité. En même temps, je ne sais pas si c'est ça. C'est une ouverture.
C'est
une ouverture. C'est-à-dire que...
C'est l'énergie du
maître orthodoxe. Le rechercher, peut-être.
Il faut s'ouvrir à ça. Il faut s'ouvrir à ça. C'est-à-dire que, vous voyez, ce n'est pas lui qui a fait venir les anges. Ils étaient là, finalement. Mais dans ce regard et dans le fait de leur donner à manger ou laver leurs pieds, comme dit Mme Klein, eh bien, en fait... c'est l'idée, on les reconnaît comme supérieurs. Si on les reconnaît comme supérieurs, on leur fait une vraie place, il y a une vraie considération. Du coup, il y a quelque chose qui peut se faire du travail en équipe. On reconnaît que l'autre est supérieur. Bah, du coup, on se met en situation de travailler ensemble et de découvrir ce qu'ils ont de grand et de bon. Voilà, c'est ça, peut-être. Il y a peut-être aussi l'idée de... Il y a des exégètes qui disent ça, en fait... Il faut nourrir la foi à l'intérieur de soi-même. Là, ce n'est pas question de mérite. C'est question de... Ou ses talents, si vous voulez.
Les orthodoxes considéreraient cette attitude comme une énergie, comme le Saint-Esprit, qui se traduit par une énergie.
Oui, bah oui.
Oui, c'est une force, le Saint-Esprit.
Oui, c'est une force, c'est une espérance.
Un souffle de vie.
Un souffle de vie, c'est un petit supplément d'être, une petite évolution, une petite guérissure, sur un mal, un mot, un des mots qui sont en nous. Voilà. Mais si vous, oui. Mais on peut dire nourrir sa foi, mais c'est vrai que ça se travaille, à mon avis, ça se nourrit aussi. Et Donc on peut le nourrir comme il fait là, avec tout ce qu'il peut, quoi. Il met tout le monde au service, le végétal comme l'animal, le serviteur. Ça, il dit à Sarah de pétrir le pain, chacun fait sa partie. Et puis finalement, ben, ils peuvent les manger et puis être à l'écoute. Hein, finalement,
c'est peut-être un repas de fête.
C'est un repas de fête. C'est une blanquette de veau, non ?
Non, un veau tendre et bon.
Un tendre veau avec de la crème de lait. Hein. La crème et du lait. Non ? C'est pas comme ça que vous faites, Nicole ?
C'est vous qui les faites très bien.
Moi, j'enlève la crème fraîche parce que, bon, aujourd'hui, on fait un peu moins gras, non ? Mais un petit...
D'ailleurs, on a de la léger. Ah.
Mais vous faites comme Abraham, vous mettez de la crème fraîche dans la blanquette de veau, vous, ou pas ? Ah oui. Non, c'est fameux, moi, je trouve. Mais... Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans la cacheroute, hein, la loi juive, on fait pas cuire... Même si vous allez chez des amis juifs, ils ont deux batteries de cuisine, une pour la viande, une pour le lait, et des vaisselles, des assiettes et des couverts pour le lait et pour la viande, pour que ça ne soit pas mélangé. Mais là, c'était avant la cacheroute, hein, et donc il fait une blanquette de veau, ce qui est quand même pas tellement cachère. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Et puis avec du pain, bon, ça manque un peu de dessert, mais c'est... voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il entend ? Il entend « Où est Sarah, ta femme hein ?» Ben voilà, c'est-à-dire c'est une bonne idée. Il se rend compte aussi voilà, que sa femme existe comme une personne. Hein. Et Sarah ricane, et ça, c'est pas très bon. C'est-à-dire qu'il y a une façon peut-être de ricaner à la promesse de Dieu. Je ne sais pas comment dire. C'est vrai que de toute façon, Dieu, ce que Dieu fait, c'est toujours surprenant. Il y a marqué, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? En fait, il y a tout qui est étonnant, forcément. Parce que c'est les créateurs, donc... Comme on dit dans l'Annonciation à Marie, hein, dans Luc 1, chapitre 1 de l'Évangile selon Luc, il y a marqué « Avec Dieu, tout est possible ». Mais en fait, ce n'est pas que Dieu pourrait faire tout et n'importe quoi. Il ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il n'en a même pas envie, parce que le mal, il n'a pas envie de le faire et il ne le fait pas. Donc, voilà. Mais ça veut plutôt dire « Avec Dieu, il n'y a rien d'impossible au sens où on peut s'attendre. On ne sait même pas à quoi s'attendre avec lui, en fait. »
Parce qu'il a toute la puissance, quand même.
Il n'a pas toute la puissance. Il a une puissance infinie, infiniment plus grande, oui. Oui. Parce que si oui, il ne peut pas faire... Par exemple, si quelqu'un s'est fait couper la jambe sous un tramway, il ne peut pas la faire repousser.
C'est parce qu'il ne veut pas,
sinon. C'est parce qu'il ne peut pas, je crois.
Parce qu'il ne peut pas.
C'est parce qu'il ne peut pas, et il y a des choses qu'il ne veut pas, oui. Par exemple, le mal, il ne veut pas faire qu'on soit stérile, comme pour contredire Sarah. Mais faire repousser ou donner la santé à un enfant qui meurt de leucémie dans des souffrances atroces, Dieu veut. Et si la fillette ne guérit pas, c'est parce que c'est pas parce que Dieu ne l'a pas voulu, c'est parce que Dieu n'a pas pu, et qu'il espère... qu'on va trouver des médicaments contre ces cochonneries de maladies, qu'on sera soigné, que si on s'est soigné, ben, qu'il n'y aura pas d'enfants abandonnés quelque part qui ne bénéficieront pas des soins. C'est ça plutôt la volonté de Dieu. Alors si l'enfant meurt, bon, il y a des fois, hein, si on est malade, on l'a bien cherché, mais il y a beaucoup de fois où non, c'est malgré Dieu, c'est malgré nous, et c'est le chaos de la nature, et... Voilà. Mais
Dieu
là, donc.
Il agit à travers l'homme.
Quoi ?
Dieu agit à travers l'homme.
Il agit à travers l'homme, à court terme, à mon avis, oui. C'est-à-dire que pour faire pousser un chêne centenaire, bah, il faut à Dieu, il faut 100 ans.
Voilà.
Il peut se débrouiller, faire tomber un gland. Et il peut peut-être, je ne sais pas s'il peut envoyer une mouette attraper le gland, que la mouette le lâche 100 mètres plus loin, j'en sais rien. En tout cas, bon, il. En général, il a besoin de nous pour faire de la recherche sur le cancer.
Pour faire de la recherche, il faut que ce soit. Des hommes qui trouvent quelque chose.
Oui, alors Dieu, il
agit peut-être derrière.
Il agit peut-être derrière pour faire évoluer la nature, mais là, c'est sur des aires géologiques, et c'est d'une manière extrêmement dynamique, souple, discrète. Il ne pilote pas la nature comme je peux déplacer ce livre de 10 cm. Dieu ne peut pas faire ça, si vous voulez.
Sinon, le monde serait parce qu'il est.
Par exemple, s'il y a un caillou qui est posé là, Dieu ne peut pas le lever et le poser 10 cm à côté. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille l'attraper, le déplacer de 10 cm
ou...
Il peut suggérer par son esprit à quelqu'un de le faire. Voilà. Alors ensuite, il faudrait qu'il y ait un petit tremblement de terre. Mais est-ce que Dieu peut faire un petit tremblement de terre pour faire vaciller le caillou de 10 cm? Je ne sais pas. Bref, c'est des questions. Vous savez, on sait ça. Moi, je dirais que Dieu a une puissance sur la nature. Oui. Laquelle? Ben, ça, c'est pas facile à dire. C'est d'une manière, avec lui, il a une façon de. Mais voilà, c'est de toute façon, c'est. Par contre, en nous, oui, il peut, si. Il peut susciter. Alors, on voit dans cette histoire, oui, que Dieu n'est pas tout puissant. Il fait ce qu'il peut pour que sa bénédiction évolue, chemine. Mais ça passe par une évolution des bons hommes et des bonnes femmes. Et de leur rapport aux autres. Hein.
Rien n'est impossible pour Dieu. Il peut tout faire.
Il ne peut pas tout faire. Hein.
Non.
Il ne peut pas tout faire. Il est source d'évolution. D'abord, il lui faut du temps pour. Il faut du temps au temps. Sur un chêne centenaire, il lui faut au moins 100 ans. Il ne peut pas faire pousser un chêne centenaire en un an. C'est pas possible. Hein? Et puis, il ne peut pas faire que ce qui est arrivé n'ait pas eu lieu, par exemple. Bah oui, c'est arrivé. Ça ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut pas faire le mal. Et puis, ce que je vous dis, c'est qu'il n'a pas de main pour attraper, pas d'autres mains que les nôtres, pour attraper un objet et le déplacer de 10 cm, je ne crois pas. Si, il a peut-être des mouettes. Hein. Mais je ne suis pas sûr qu'elles soient très réceptrices à l'Esprit Saint, contrairement à ce qu'on peut parfois penser.
Il dit à votre frère,
il explique ça. Ah oui. Mais aujourd'hui, catholiques comme protestants, comme orthodoxes aussi, et c'est ce que je crois qu'on a vraiment découvert en Jésus-Christ, c'est que la puissance de Dieu, c'est une puissance d'amour, c'est une puissance de persuasion, c'est une puissance de promesse, de bénédiction, etc. Mais il y a eu, si vous voulez, notre fantasme, ce serait d'avoir un Dieu tout-puissant et qui nous bénisse et qu'en étant bien gentil, bien religieux, on puisse bénéficier de sa toute-puissance. Ça, c'est notre rêve, ce serait génial. On croit au Père Noël, et sauf qu'en plus, dans le kit qui descend par la cheminée, on devient nous-mêmes Père Noël, quoi. Alors ça nous plaît beaucoup. Et donc, dans les textes bibliques, on a projeté un peu de ça parfois. C'est-à-dire que là, en fait, à vrai dire, dans le texte que j'ai donné, il y a quelque part, il y a marqué le Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, là, non ? J'ai mis le Dieu Shaddai, j'ai mis. Parce que c'est ce qu'est en hébreu, hein, c'est Shaddai. Ça ne veut absolument pas dire Tout-Puissant, mais dans nos traductions, et allez-y, le traducteur met Tout-Puissant, mais c'est du mensonge. Ça veut peut-être dire puissant,
mais
il n'y a pas Kol Shaddai, c'est-à-dire il n'y a pas marqué tout puissant. Puissant sûrement, tout puissant. À mon avis, si vous voulez, le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui ont perdu la foi à cause de ça, on croit en un Dieu tout puissant, on le prie, etc. On se dit, ben, c'est ma faute, si machin. Puis, pan, son enfant meurt dans des souffrances atroces. On se dit, mais merci pour le Dieu tout puissant. Moi, peut-être qu'il existe, mais en tout cas, je n'y crois plus. Mais en fait, ce Dieu-là n'existait pas. Donc, si vous voulez, je crois que c'est important. Et dans la Bible, quand on regarde bien, on parle littéralement de toute puissance de Dieu que dans la fin des temps. Oui. Et donc, c'est de dire qu'il y a convergence vers un mieux. Et donc, à l'infini du temps, l'asymptote aura rejoint l'axe. Et donc,
La toute-puissance de Dieu, ce sera la fin des temps.
Ça ne sera qu'à la fin des temps. Pour l'instant, on a la puissance infinie de Dieu, mais qui est une puissance
relative. C'est comme quand il parlait de la résurrection, c'est toujours à la fin des temps aussi.
C'est plutôt dans le temps présent.
Oui, dans le temps présent.
C'est dans un autre axe.
L'éternité, c'est une question de qualité.
Donc, si vous voulez ça, aujourd'hui, on l'a beaucoup redécouvert. Vous trouverez ça dans pratiquement toutes les confessions chrétiennes et chez les juifs aussi, d'ailleurs. La toute-puissance de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est tellement biblique que ça. C'est plutôt de la théologie grecque avec Zeus et Jupiter qui est venu contaminer, et c'est nos fantasmes qui sont venus contaminer notre lecture biblique. Mais le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est créateur dans le présent, c'est-à-dire qu'il est encore en train
De créer,
d'être le monde est encore en genèse.
Il est en création.
Voilà.
Il n'est pas créé.
Il est en cours de création.
C'est un grand chantier.
Voilà, exactement.
Et quand il y a des grands chantiers, il y a des accidents de parcours.
Mais puis il reste du chaos dans le monde, donc Dieu fait ce qu'il peut. Mais il y travaille et puis il nous appelle à y travailler. Il y a des choses qu'il peut, qu'il ne peut pas, mais ensemble, lui et nous, ben, on collabore et on fait ce qu'on peut. Bon, cela dit, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de puissance, il a une puissance infinie. Mais il ne peut pas faire, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, ou qu'il ne peut pas faire immédiatement. Il ne peut pas faire immédiatement, il lui faut du temps et il y travaille. Voilà.
On peut toujours lui demander,
on peut évidemment lui demander.
C'est ça que vous voulez dire.
Alors oui, par exemple, éliminer la leucémie des enfants qui meurent dans des souffrances atroces, oui, il ne peut pas supprimer ça instantanément, mais il y travaille de son côté et il nous appelle à y travailler d'une autre. Mais ça, je crois que c'est important au point de vue pour se réconcilier avec Dieu. S'il nous arrive des catastrophes, ça ne vient pas de Dieu. Si nous sommes stériles, ça ne vient pas de Dieu. Voilà.
Tous ces gens qui meurent de faim dans important. Le monde, il ne peut pas, sinon il ne laisserait pas mourir de faim par plaisir.
Société, souvent, hein.
Alors ça, voilà. Ah oui, ça, vous avez raison dans ce sens que si on s'organisait entre nous...
Eh bien oui, voilà, c'est oui. Ça vient des hommes. Ça.
Oui, mais beaucoup de gens, mais Dieu ne pouvait pas l'empêcher, ça.
Mais
c'est
ça...
bon que j'ai entendu.
Ben, voilà.
Oui, non, mais voilà.
Et quand on est très malheureux et qu'il y a un état de catastrophe, il faut se mettre à la place des gens.
Non, mais on a le droit d'en vouloir à Dieu, on a le droit. J'ai dit qu'on avait le droit de râler contre Dieu, on a tout à fait le droit. On a le droit de gueuler, je vous avais dit.
Qu'on ait droit ou pas, on le fait quand même.
Hein. Voilà, exactement. Et puis, il n'est pas fâché en plus.
On
et le pire,
droit, hein.
Et le pire, c'est qu'il n'est même pas fâché.
Il nous a créé quand même un état d'esprit critique. Ou alors, on aurait une patate à la place du cerveau.
Exactement. Non, mais ça, tout à fait. Là, vous avez parfaitement raison.
Oui.
Et d'ailleurs, on le voit, Dieu n'est pas du tout fâché quand tu dis, mais que ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que tu fais? Ta part de boulot, tu ne la fais pas. Et puis, c'est dégueulasse. Oui.
Alors, on doit attendre la fin des temps pour qu'il agisse d'une façon toute puissante.
Non, parce qu'il est en train d'y travailler, je dis. Mais la perfection, effectivement, ça ne sera pas aujourd'hui.
Il y en a pour un moment.
La perfection, ça ne sera pas aujourd'hui.
Non,
mais du progrès et du mieux, il y en a dans notre vie. Et d'ailleurs, cette histoire nous le montre. On va dans la progression. Et dans un juste rapport avec Dieu, on peut s'ouvrir. Oui, donc avec Dieu, on peut vraiment... Si, avec Dieu, il y a vraiment du progrès, du cheminement et du... Oui, non, tout à fait. Ça, je crois qu'on peut vraiment le dire. Et il y a des milliards de croyants qui en témoignent. Oui. Dans les bons jours comme dans les mauvais. Dans l'abondance comme dans le dénuement, il y a un vrai secours, une vraie aide de Dieu et il y a un vrai cheminement avec Dieu. Et c'est justement ça dont parlent ces textes. Mais cela dit, on le voit, la bénédiction de Dieu, elle butait par exemple contre l'égocentrisme d'Abraham. Donc malgré la bénédiction de Dieu, sa bénédiction faisait échec, ou était retardée, si vous voulez, était empêchée, retardée par cette... Mais on n'en veut pas à Abraham, tous on a du mal à progresser, à grandir, à cheminer, c'est normal. Alors notre Abraham, il vous plaît, non?
Non, moi, il ne me plaît pas.
Il ne vous plaît pas tellement?
Non, je ne trouve pas sympa.
Mais là, il est sur le mieux quand même.
Oui, mais enfin, après, il renvoie son fils Ismaël, parce qu'il en a un autre.
Tout est mauvais, ça.
Je trouve que ce n'est pas très sympa non plus, ça.
Bon, ça, c'est vrai que c'est un peu limite, moi, je trouve aussi. Cela dit, il lui donne une...
C'est un peu limite, il en a... Avec sa famille, il les renvoie.
En plein désert. Bon,
en
il leur donne quand
désert.
Même.
Une... Heureusement, il les recueille, mais.
Il leur donne quand même une baguette et puis un.
Et une gourde.
On ne peut pas apprécier un homme comme ça. Non. C'est sordide comme attitude.
Oui, non, ça, c'est vrai que là, c'est pas terrible.
Et alors, en fait, Agar, elle était égyptienne. Elle était une esclave égyptienne. Après, le peuple hébreu, un certain nombre de temps en Égypte où il est traité un peu, peut-être. Un peu en esclave, tout de même.
Oui, alors ça, c'est parce que, si vous voulez, donc souvent, ils descendaient en Égypte quand il y avait des famines. Donc ça, c'est historique. Parce que l'Égypte, avec les crues du Nil et puis une bonne organisation humaine, savait faire des provisions, des récoltes, des greniers, des conserves. Mais donc on pouvait aller en Égypte pour se sauver de famine. Mais le tort des Hébreux, c'est qu'ils se sont installés là-bas.
Voilà.
Donc ça veut dire, ça, je crois, souvent, c'est relu comme une parabole, se dire... On peut s'inscrire notre activité, notre espoir de vie dans l'appuyer sur une activité matérielle, sur la solidarité humaine, mais il ne faut pas que ce soit le lieu de notre espérance unique.
Il ne faut pas être envahissant.
Il ne faut pas que ce soit envahissant pour nous, et donc il faut, oui, que... Alors, pour terminer, on voit que l'apôtre Paul, à la fin, il fait un peu... Il reprend cette histoire d'une manière allégorique, si vous voulez. Alors, tout le monde la lit, bien sûr, d'une manière allégorique, aussi bien, évidemment, les rabbins que les pères de l'Église, que Philon d'Alexandrie, donc le théologien juif de langue romaine, à l'époque de Jésus, un peu plus tard, que les pères de l'Église, les théologiens, tout le monde. Paul aussi, bien sûr, il va relire ça. Alors, tout le monde lit, si vous voulez, Sarah et Agar à deux dimensions de l'humain, par exemple, en disant c'est la dimension, notre dimension animale et psychologique. Et puis, Sarah représente la bénédiction de la promesse et le spirituel. Donc là, c'est ce que fait un peu Paul, si vous voulez. Il dit... Agar, c'est l'esclave, donc c'est un peu le côté obéissance, le côté loi, le côté... Et puis Sarah, c'est le côté spirituel, le côté grâce de Dieu, le côté bénédiction. Donc, comme il y a marqué, chasse l'esclave et son fils, ça veut dire chasser l'esclavage, chasser l'oppression, chasser ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, nos préjugés, nos machins, pour avoir cette liberté d'enfants de Dieu. Donc si c'est relu aux dimensions symboliques, à la limite, je veux bien, si vous voulez, qu'on se dise, il est bon d'avoir chassé Agar et son fils si c'est des mauvaises dimensions des relations humaines, c'est-à-dire de l'oppression, de l'esclavagisme, ou alors les préjugés en nous, bien chasser ce qui nous rend esclaves. Ça peut être des blessures anciennes, des angoisses, la colère, si c'est ça qui est notre problème, ou bien des trucs très concrets comme l'alcoolisme pour certains, ou je ne sais pas quoi, chacun ses problèmes. Donc à ce moment-là, une histoire comme ça, relue symboliquement, peut devenir intéressante. Même si, évidemment, et même les rabbins le font, et évidemment, même si Abraham est la figure fondamentale, et nous, Abraham est la figure de la foi, ça n'empêche qu'on dit, là, c'est dégueulasse de renvoyer une femme, quelle qu'elle soit, une personne, quelle qu'il soit, dans le désert, avec une baguette de pain et une bouteille d'eau des viands, mourir dans le désert. Bon, encore plus quand c'est la mère de son fils.
La femme, c'est ça, ouais. Il a eu un fils.
Désolé. D'ailleurs, on voit Abraham, il dit, mais je ne peux pas faire ça, il est hyper triste. Voilà. Ah bon. Donc on peut le lire au sens spirituel. Alors il y a des lectures qui disent Agar en fait c'est la premier-née qui est sous l'esclavage, en fait c'est le peuple juif, et puis Sarah c'est la fille de la promesse, machin, c'est les chrétiens. Bon, c'est un peu fort de bouchon, parce que si vous voulez tirer le bouchon trop loin, c'est fort de café, parce que bon, pas non plus, hein. Un peu exagéré. Voilà. Donc, ça dépend comment on comprend les choses. On peut comprendre différemment aussi cette histoire. Il y a Philon d'Alexandrie, lui, dit que Sarah, ça représente la sagesse, et puis Agar, la culture. Donc, il faut se libérer, finalement, de la simple culture par la sagesse, donc s'élever au-dessus de ses préjugés, de ce qu'on a su. Hein. Donc, il peut y avoir différentes lectures de ça, mais ensuite, c'est à chacun de faire la sienne et de voir quelle est... quelle est son activité humaine, quelle est son espérance humaine, son espérance spirituelle, enfin, je ne sais pas.
Les deux. C'est les deux, comme toujours.
Il faut garder les deux, normalement. C'est pour ça qu'il a tort, à mon avis, de chasser. Il a tort de chasser.
Chaque femme doit avoir Sarah et Agar en elle.
En géographie, Paul dit au verset 25. Que le Sinaï est en Arabie alors qu'il est en Égypte.
Alors ça, c'est ce que dit... Bon, alors peut-être que les contours de ces pays, de ces continents, si vous voulez, de ces pays, ont changé depuis l'époque de Paul. Hein. Bon, ce que c'est, ce qu'il veut dire, je pense, c'est que ça, c'est un peu en dehors d'Israël. C'est-à-dire que ça peut représenter un peu le pôle, un peu comme Philon d'Alexandrie, un peu le pôle culture, si vous voulez, en dehors de la foi, en disant, ben, faut privilégier, on pourrait dire au sens éthique, si vous voulez, on pourrait dire, faut privilégier l'amour par rapport à au business. Hein? On pourrait dire ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de commerce, ou qu'on n'a pas d'échange, ou qu'on n'a pas de salaire, on n'a pas de... Bon, normal, oui, évidemment, il faut bien manger, il faut acheter un beefsteak et tout. Mais on privilégie l'amour par rapport au beefsteak. C'est un peu ça, si vous voulez, en disant, ben, le Sinaï, c'est plutôt du côté beefsteak, et les côtés Jérusalem, c'est la Jérusalem céleste, c'est pas la Jérusalem faite de pierres et de cailloux qui est à telle longitude, telle latitude sur le globe terrestre. C'est une Jérusalem céleste dont nous sommes. Donc, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Voilà. Et nous, on est de cette cité-là. C'est le thème qu'on va retrouver beaucoup dans Saint Augustin, par exemple. Hein, la cité de Dieu, la cité des hommes. On est, de toute façon, ou alors dans l'échelle de Jacob, qu'on avait médité, l'homme est un pont entre ces deux dimensions. Mais ça va si on a bien percuté le fait que le ciel est au-dessus de la terre, et pas l'inverse, quoi, si vous voulez. Si on pense l'inverse, on marche sur les mains, ça peut se faire. Bon, quand même, la circulation se fait moins bien, on a la tête qui tourne. Et puis, pour bon, on peut marcher peut-être 2-3 mètres, moi je ne sais pas faire, mais il y a des gens qui savent faire. Mais on ne fait pas le marathon de New York en marchant sur les mains.
Est-ce qu'il y a une autre syntaxe? Parce que là, ça, il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup de longueurs.
Oui, oui, il y a des répétitions.
Comme si on était un peu niais, quelque part, comme s'il fallait nous le
redire. Non, c'est la poésie de l'époque, hein. C'est un style littéraire. Hein. Ouais, c'est un style littéraire.
Est-ce qu'il y a une grande différence dans la rapidité de la lecture quand c'est en hébreu?
Non, pas tellement. Hein. Pas tellement. Bon, c'est peut-être un peu plus condensé, mais cela dit, c'est la beauté de la langue aussi. Et puis, mais si vous voulez, c'est une question d'époque. Quand on voit, bon, par exemple, je ne sais pas, Victor Hugo, il y a des descriptions de la mer autour de Guernesey qui font 42 pages. Bon, je ne parle même pas de Proust, si vous voulez, mais il y a une beauté de ces descriptions. Bon, alors là, c'est dans un autre genre. Par exemple, effectivement... L'histoire de transformer Sarah comme un objet, ça va revenir, il va faire ça ailleurs. La jalousie, ça revient deux fois, une petite fois d'abord et puis une grosse fois plus loin. Vous voyez, ça revient, et puis cette promesse qui sans cesse revient, mais il y a aussi là quelque chose qui se dit de notre vie, si vous voulez. Voilà. Dieu sans cesse qui passe et qui repasse pour nous dire la bénédiction, pour nous accompagner, pour machin, et ça c'est quand même assez... Il y a quelque chose de vrai qui se dit là-dedans, non ? On voit le cheminement de cet homme, en même temps la répétition, si vous voulez. Donc le mal qu'il a à sortir de ce qu'il est lui-même, finalement. Hein, de ce... Non ?
La question que vous posez, c'est une question de culture. Notre culture est écrite. Donc on retrouve toujours, très facilement, l'important. Mais à cette époque, le texte oral... La communication orale était beaucoup plus importante. Et quand vous parlez, et ben quelquefois vous oubliez ce que vous avez dit 5 minutes avant.
Donc dans les contes, on pouvait très bien répéter. Alors on se retrouve la semaine prochaine, pour ceux qui le désirent, avec la Samaritaine, je crois. Donc c'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4. Évangile selon Jean, chapitre 4. Une belle page, hein, avec Jésus et la Samaritaine. Hein.
Un seul chapitre.
Ce coup-là, c'est un seul chapitre. Mais un chapitre quand même. Au début, c'est la Samaritaine, et puis il y a la guérison qui suit, mais on en a besoin quand même, parce que le texte est construit. Vous pourrez regarder avec une histoire d'heure. Hein, au début, il y a un lien à faire entre la rencontre avec la Samaritaine et la guérison du fils de loin, où c'est l'heure suivante. Bon, ben donc, bon retour. Merci de nous avoir rejoints pour ce petit moment. Merci.